Alors, merci d'avoir accepté de venir encore nous raconter un petit peu beaucoup de choses. Alors, est-ce que déjà vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr, je pense que c'est important de se présenter. Donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Marie-Christine Manuel. Je suis psychologue clinicienne, mais surtout thérapeute de couple et de famille, ainsi que formatrice. Et j'accompagne maintenant, donc sur Marseille principalement, et depuis plus de 20 ans, des familles et des professionnels, et surtout ceux qui prennent en charge en fait les sujets âgés, que ce soit à domicile ou en institution. Et c'est ce qui fait que je souhaite aborder, comme vous l'avez dit, le thème du vieillissement et ses effets psychologiques d'abord, parce que il est important effectivement de considérer que le vieillissement est une phase aussi de notre existence. Voilà. Alors, donc, je voulais d'abord commencer par quelques petits rappels concernant les notions de vieillesse et de vieillissement. Et ensuite, donc, j'aborderai ces effets psychologiques quant à, justement, aux relations aussi que le sujet en vieillissement et le sujet âgé peut avoir avec son entourage. Alors, la notion de vieillissement et de vieillesse est plus une construction subjective et culturelle qu'un fait naturel. Ainsi, en Occident, donc dans notre culture principalement, le vieillissement est traditionnellement défini comme un processus d'involution biologique, ainsi que la perte progressive des capacités d'adaptation aux différents changements dans la vie quotidienne. Alors que dans des cultures dites plus traditionnelles, le vieillissement est source d'expérience. Il est représenté comme le chemin vers la sagesse, la route vers la sérénité. La complexité de la vieillesse en tant que cycle de vie réside dans la manière paradoxale dont elle est envisagée dans nos croyances occidentales. L'enfance est valorisée. L'adolescence est redoutée puisqu'elle est associée à la crise de l'adolescence. Mais elle est aussi le pont entre l'enfance et l'âge adulte. La phase adulte est considérée comme une étape de plénitude. La vieillesse, quant à elle, est crainte, mais elle est aussi souhaitée, car elle est vécue comme une alternative à la mort. Vieillir est synonyme de perte. Les croyances occidentales se construisent principalement sur la valeur travail. Si une personne n'est plus active, elle peut devenir inutile, voire un poids pour la société. Le film Soleil Vert, œuvre d'anticipation, imagine une utilisation cynique du décès des personnes trop âgées pour être productives de leur vivant. Mais vieillir fait aussi souffrir, nous le verrons plus tard, car elle provoque principalement l'inversion des rôles et les relations entre parents et enfants. Devenir dépendant de ses enfants est un processus laborieux. Le vécu psychologique de la dépendance est parfois plus lourd que la dégradation physique elle-même. Cependant, contrairement aux idées reçues, le réseau familial est présent et attentif dans la plupart des cas, tout en essayant de s'adapter à de nouvelles exigences liées à l'augmentation de l'espérance de vie et aux bouleversements familiaux et socio-économiques. Maintenant, je vais vous évoquer les effets psychologiques du vieillissement sur le sujet âgé. Donc, quels que soient les signes que le vieillissement peut prendre, le vieillissement change notre regard sur le monde et notre manière d'être au monde. Alors, il y a d'abord le vieillissement physique et principalement le vieillissement moteur. Le vieillissement moteur impose une adaptation, des abandons, plus ou moins aisément consentis. Cette adaptation et ces abandons ne peuvent se faire que si on pose sur soi-même et sur le monde un autre regard. Prenons l'exemple de la promenade. Le plaisir de la promenade ne peut être complet que s'il n'est pas entravé par les contraintes du corps. Il va de soi, donc, que l'insuffisance cardiaque va imposer au sujet de restreindre son parcours et donc de ne plus aller en certains lieux. À l'inverse, la promenade constitue un excellent moyen de lutter contre l'aggravation de la maladie. Mais une promenade thérapeutique n'est pas une promenade de plaisir. Il va de soi encore plus qu'on ne se prenne même pas de la même façon lorsque les douleurs de l'arthrose viennent la perturber, ou que la peur de la chute force le sujet à marcher avec plus de précaution, à penser à ses précautions. Cela va modifier le plaisir qu'il éprouve. L'œil qui guette les obstacles du sol n'est plus disponible pour admirer le paysage. Le souffle qui se raccourcit entrave le plaisir de la conversation. Ceci est très important, car on a trop facilement tendance à en conclure que la personne âgée est fatiguée et qu'il vaut mieux pour elle renoncer à ce qu'elle ne peut plus assumer. Or, lorsque la personne âgée, par exemple, renonce à faire son jardin, les conséquences sociales et psychologiques sont dramatiques. Le rôle de son entourage personnel et professionnel serait alors d'encourager le sujet à s'adapter pour continuer à le faire. Cela supposerait une nouvelle organisation permettant notamment à la personne âgée de bénéficier d'un supplément d'aide quand elle jardine. Après le vieillissement moteur, il y a le vieillissement sensoriel. Nous allons nous y attarder car le vieillissement sensoriel est un excellent modèle pour étudier les conséquences psychologiques du vieillissement. Ce vieillissement est différentiel. Il dépend d'une personne et d'une autre personne. Tous les organes ne se dégradant pas en même temps ni au même rythme. Rappelons que les deux organes qui se détériorent le plus sont les plus utilisés par notre civilisation, la vision et l'audition. La vision s'altère d'abord et de façon presque obligatoire. Qui plus est, cela impose au sujet de l'annoncer. Les lunettes font savoir à tout un chacun que pour moi le temps passe. L'audition se dégrade aussi, et de deux manières. Il y a une baisse de l'aptitude à percevoir les sons peu intenses, mais il y a aussi, et peut-être même surtout, une diminution de l'aptitude à distinguer les sons. Dans la vie courante, nous recevons toujours plusieurs sons simultanément, par exemple, ceux de la conversation et les bruits de la rue. Et c'est par un système complexe que nous parvenons à filtrer les bruits qui nous intéressent. La dégradation de ce système est beaucoup plus pénalisante que la baisse de l'acuité auditive, de même que les distorsions qui se produisent du fait que, par exemple, les fréquences aiguës sont moins bien perçues. Cette baisse de performance doit être prise en compte, ne serait-ce que pour ne pas faire d'erreur. Certains vieillards sont étiquetés déments alors qu'ils sont sourds. On peut aussi diagnostiquer un mouvement hallucinatoire auprès d'un sujet âgé qui, ne voyant plus de loin, essaie par ses souvenirs de reconstruire ce qu'il ne perçoit plus précisément. Mais surtout, cette détérioration sensorielle entraîne des remaniements psychologiques importants et qui permettent de voir à l'œuvre plusieurs des mécanismes du vieillissement psychologique. Les deux sens, en effet, sont ceux qui sont impliqués dans la perception à distance. Leur faillite est donc cause de profonds remaniements psychologiques. L'espace sensoriel de la personne âgée se rétrécit. Tout simplement parce qu'elle n'a plus accès aux objets lointains. Le repli sur soi de la personne âgée a ici quelque chose de simplement physique. Et si le sujet tend à ne plus s'intéresser qu'à son environnement immédiat, c'est aussi parce qu'il ne peut plus accéder à ce qui est lointain. D'où ce besoin aussi d'avoir tout à portée. Par exemple, une dame de plus de 90 ans, passant toute sa journée dans son fauteuil, avait organisé son environnement en berceau, tout autour de son fauteuil. Chaque objet avait une place précise et immuable. Albums photos, mouchoirs, lunettes, verres, boissons, télécommande de la télévision, sonnette, etc. Et si quelqu'un déplaçait un de ces précieux objets, il recevait une volée de bois vert. Cependant, il y a une différence majeure entre ces deux modes sensoriels. On n'y insistera pas. Mais il faut remarquer que la vision ne demande pas que l'objet qui est vu soit actif dans l'échange. Je vois l'autre, qu'il le veuille ou non, dès lors qu'il passe dans mon champ de vision. S'il est là, je le vois. S'il n'est pas là, je ne le vois pas. Ce n'est pas vrai pour ce qui est de l'audition. Je ne peux entendre l'autre que s'il me parle et que si, en somme, il décide que je vais l'entendre. C'est pourquoi le vieillissement auditif est aussi central dans l'évolution de notre capacité à communiquer. Les conséquences du vieillissement visuel sont assez faciles à corriger, du moins quand il ne s'agit que de presbytie, puisqu'on sait qu'il existe d'autres pathologies liées à l'âge et dont les conséquences sont autrement redoutables. Pour la presbytie, les lunettes suffisent. Par ailleurs, et très grossièrement, la baisse de l'acuité visuelle n'intéresse qu'une personne, celle qu'il doit voir. Il n'en va pas de même du vieillissement auditif. D'abord, le vieillissement auditif se corrige plus mal. Ensuite, il implique deux personnes, celui qui entend, mais aussi celui qui parle. Le remède le plus simple est de demander à la personne qui parle de parler plus fort. L'audition étant un sens de la communication, elle offre au sujet âgé un pouvoir dont il ne se prive pas toujours. Et il arrive qu'il joue effectivement de son déficit. Il s'ensuit que le vieillissement auditif est à l'origine de conflits. Chacun accuse l'autre de ne pas faire d'efforts. La perte de l'aptitude à distinguer les sons fait que le sujet âgé supporte mal les conversations à plusieurs, qu'il les fuit et devient irritable. Mais aussi, on le soupçonne de le faire exprès, car précisément, le sujet âgé se montre encore capable d'entendre des sons peu intenses, s'ils sont graves, comme souvent au téléphone. Comme je l'ai déjà dit, la conséquence du vieillissement différentiel est que le sujet âgé perd le sens qui explore à distance. Du coup, les autres prennent une place plus importante. C'est le cas par exemple de l'odorat. Surtout qu'il s'agit d'un sens qui, par rapport au goût et au toucher, opère tout un peu une même distance. L'olfaction se développe. Et comme c'est un sens qui a été moins éduqué, cela explique que le sujet âgé tend à être victime d'illusions et d'obsessions olfactives. Mais d'autre part, on voit que le vieillissement aboutit à un résultat mélangé. Certes, l'aptitude à connaître objectivement les choses diminue, mais l'aptitude à les connaître de l'intérieur, à les goûter, à les apprécier, tend à augmenter. Il n'est pas rare d'observer des sujets âgés peu enclin plus jeune à goûter des sucreries, devenir gourmand de gâteaux et bonbons, rappelant aussi l'enfance perdue. On voit ici à l'œuvre l'ensemble des mécanismes psychologiques essentiels du vieillissement. Le sujet perd des aptitudes, il doit s'adapter à ses pertes. Ces pertes laissent une place libre, ce qui permet à d'autres aptitudes de se développer. Il y a autant d'acquisitions que de pertes. Je me souviens de mamie, la grand-mère de mon mari, décédée à presque 100 ans. Celle-ci, à cause du MLA, perdit progressivement la vue. En écoutant ma voix ou le rythme de mes pas, mamie était capable de deviner mon état d'esprit et mon humeur. Le développement de ces activités nouvelles s'accompagne de distorsions, comme dans tout apprentissage. Cette idée qu'il y a autant d'acquisitions que de pertes est cependant d'un faible secours quand il s'agit de faire le deuil de ce qu'on a perdu. Après le vieillissement sensoriel, il y a aussi le vieillissement sexuel. Il est évidemment très important. Nous en parlerons assez peu, la chose la plus importante étant de noter que précisément, il reste encore largement occulté. Il faut tout de même se pencher sur un point curieux, qui est l'inégalité des sexes devant le vieillissement. Ici aussi, le vieillissement est différentiel. Considérons le traitement de la ménopause. On sait que la ménopause est maintenant considérée à juste titre comme une source majeure d'infirmité, aggravation du risque cardiovasculaire, fracture du col du fémur, etc. Il est donc devenu évident que la ménopause doit être traitée. Mais faisant cela, on ralentit l'essentiel du processus de vieillissement chez la femme, qui en voit en quelque sorte sa jeunesse se prolonger. La question qui est posée au médecin est de savoir combien de temps on doit traiter la ménopause. Et l'accord se fait sur 5 à 7 ans. Mais quelle est la justification de cette durée? Rien. Biologiquement, ne s'oppose à l'idée de traiter indéfiniment. Ce qui gêne ici, c'est peut-être le vertige qui prend à l'idée que les hommes auraient inventé l'auto-jouvence et que seules les femmes en profiteraient. Toujours est-il qu'il faut tenir compte d'une nouveauté inattendue. Contrairement à ce qui a toujours été, les hommes se mettent à vieillir plus vite que les femmes. Là aussi, on voit à l'œuvre des mécanismes de perte, d'adaptation, de découverte de potentialités nouvelles. C'est d'autant plus important que si les fonctions sexuelles vieillissent, si le pouvoir de séduction diminue, cela n'a aucune raison de suivre le même rythme chez les deux membres du couple, ce qui impose une rééquilibration relationnelle difficile. Enfin, le désir, lui, ne diminue pas de la même manière, sans aller jusqu'à parler de sa fréquente réactivation à l'approche de la fin de vie. Ajoutons ici, puisqu'en somme il est question de pouvoir de séduction, une note sur le vieillissement esthétique. Les choses ne sont pas simples et il est banal de constater à quel point les personnes âgées sont belles. Il est un peu difficile d'en convenir dans un monde qui a tellement érotisé la beauté qu'il ne sait plus faire la différence entre le beau et le désirable. Mais le grand âge est précisément la période de la vie où on peut enfin distinguer l'un de l'autre. Ainsi, loin d'être une calamité, les rites viennent souvent embellir un visage jusqu'alors inexpressif. Il y a aussi les conséquences de certaines maladies. Les maladies confrontent le sujet vieillissant à la diminution des facultés de réparation. On guérit, certes, mais il est moins facile et bientôt moins possible de revenir à l'état antérieur. Cela aussi est insidieux. Pendant longtemps, on peut sortir de la maladie avec l'impression de redevenir comme avant, comme si on n'avait jamais été malade. Puis un jour, sans qu'on s'y attende, on s'aperçoit que cette fois, on en sortira diminué. Cela donne l'impression qu'on franchit un palier, qu'il y a eu une cassure. Le plus souvent, c'est faux. On a lentement décliné, mais ce qui diminuait là aussi, c'était ses possibilités maximales qu'on n'utilise jamais. Et cela, on ne le voyait pas. Vieillir est ainsi une mise en scène de la mort. Jeune, on sort de la maladie comme d'une panne sans lendemain. Avec l'âge, la maladie devient bien davantage un coup de semonce, un avertissement de ce qui va venir. À côté du vieillissement physique, il y a bien sûr, et surtout, le vieillissement des facultés intellectuelles. C'est le plus important, le plus inquiétant. Ce vieillissement qui porte en soi la terreur de la démence est inéluctable. Il est sans doute au moins aussi douloureux que le vieillissement sexuel, tant le pouvoir de séduction et le pouvoir de l'intelligence sont valorisés dans notre civilisation. Il y a d'abord le vieillissement de la mémoire. Il y a trois types de mémoire à considérer. La mémoire immédiate n'est plus aussi performante. C'est celle qui permet d'effectuer des opérations sur le court terme, comme par exemple de se rappeler le numéro de téléphone qu'on vient de lire. La perte est sensible, même si elle n'est pas très gênante. Ensuite, il y a la mémoire de travail, celle qui permet d'effectuer les opérations intellectuelles comme le calcul mental, reste bien préservée, mais elle est très dépendante des capacités d'attention qui, elles, chez le sujet âgé, diminuent. Il y a aussi la mémoire à long terme. Celle-ci est altérée, malgré l'opinion courante. Il faut noter que les plaintes mnésiques est un phénomène normal. Ainsi, 100% des sujets de 50 ans oublient les noms propres. Par contre, la mécanique de la mémoire, toute cette machinerie qui permet de stocker un souvenir et de le rappeler à volonté, est assez peu altérée. Il y a d'autres capacités de base. Les capacités psycholinguistiques. Elles sont longtemps préservées. Notamment, le sujet âgé normal continue d'apprendre des mots nouveaux et d'enrichir ses possibilités d'expression. Ainsi, dans les maisons de retraite, les sujets âgés sont en mesure de se souvenir du prénom de certains professionnels, de nouveaux plats, ainsi que d'expressions régionales. Bien sûr, l'attention n'est plus aussi facile. Il est difficile de se concentrer, mais cette fonction peut s'éduquer et s'entretenir. C'est le cas notamment de l'attention partagée, qui est l'aptitude à être attentive à deux choses à la fois. La baisse de l'attention partagée explique la plus grande fréquence des accidents de la voie publique et des chutes. C'est l'attention partagée qui permet au conducteur d'appuyer sur l'accélérateur tout en vérifiant que la route est libre. Nous pouvons observer qu'un bon test prédictif de chute est de voir si le sujet est capable de marcher en tenant une conversation. Il y a aussi la performance intellectuelle. Elle tend à diminuer, mais cette diminution se fait de manière hétérogène. Certaines fonctions étant atteintes, d'autres non. On peut représenter cette évolution grâce à la différence entre les notions d'intelligence fluide et d'intelligence cristallisée. L'intelligence fluide correspond au fonctionnement cognitif opérationnel, adaptatif, intuitif, rapide. C'est l'intelligence qui permet aux bricoleurs de trouver immédiatement des solutions adaptées aux problèmes imprévus qu'ils rencontrent et aux footballeurs de faire la bonne passe au bon moment. On oppose à cette intelligence l'intelligence cristallisée, qui est un jeu dans les intuitions, les raisonnements, la mise en place de théories. Il se pourrait que le cerveau droit, siège de l'intelligence fluide, vieillisse plus vite que le gauche. L'aptitude à s'adapter aux situations imprévues se dégrade incontestablement. Cette dégradation est liée à celle de l'intelligence fluide qui permet de trouver rapidement des solutions, mais aussi à celle de l'attention notamment partagée, qui est en somme la fonction permettant d'analyser les problèmes. Ceci est d'autant plus grave que notre civilisation demande au contraire de plus en plus d'adaptation. Pour réussir la première mise en service d'un ordinateur, par exemple, il faut entrer dans la pensée du fabricant, notamment parce que la notice n'est absolument pas claire. Ensuite, il y a un autre phénomène, retomber en enfance. Le fonctionnement de l'intelligence fait appel à un certain nombre de capacités, stocker l'information, analyser une image visuelle, comprendre ce qu'est une quantité, un nombre, etc. Le petit enfant apprend d'abord à acquérir ses capacités, qui sont dites des capacités primaires. Puis il apprend à les organiser entre elles. Il développe ainsi des capacités secondaires. Ce système est en place à la fin de l'enfance. Le jeune adulte peut développer un troisième niveau qui lui permet en sort d'organiser toutes ses capacités secondaires. Divers travaux tendent à montrer que l'organisation intellectuelle du sujet âgé évolue sur un mode de déconstruction, notamment des capacités de troisième niveau. On aboutit à un fonctionnement très proche de celui des enfants. L'intellect du vieillard ressemble en gros à celui d'un préadolescent. C'est ainsi que vieillir serait ainsi au sens propre retombé en enfance. Encore faut-il bien préciser que ce vieillissement est très sensible à l'éducation et à l'environnement, et que le cerveau ne perd que ce qu'il n'utilise pas. Reste à se demander en outre si cette déconstruction serait un désastre. Au contraire, le mode de fonctionnement enfantin est particulièrement efficace. Non seulement il s'est révélé adapté à la situation de l'enfant, mais en outre, il a permis à chacun, à force d'observation, de contemplation, de réflexion, de produire un cerveau adulte. Simplement, les fonctions de la personne âgée sont différentes et ne permettent pas les mêmes activités que celui de l'adulte. L'enfant et le vieillard sont ainsi tournés vers la réflexion, la contemplation, la méditation. Cette similitude n'est pas fortuite. L'enfance est le temps de la formation, de l'évolution. La vieillesse est un autre temps de formation et d'évolution. Il n'y a rien donc d'étonnant si les mécanismes psychologiques sont les mêmes. Dans cette perspective, il est probablement heureux que le cerveau vieillissant récupère des fonctionnalités qui étaient l'apanage de l'enfant. Cette évolution a donc aussi des effets positifs. Le sujet âgé ne pense pas moins bien, il pense autrement et à d'autres choses. Et c'est parce que le cerveau de l'adulte plus jeune lui permet de modifier le monde qu'il ne lui permet pas de le contempler. Par ailleurs, l'évolution intellectuelle du sujet âgé se caractérise aussi et peut-être d'abord par les stratégies qu'il met en œuvre pour s'adapter à ces modifications. Chaque perte pose un problème qui doit être résolu. Ainsi, le sujet âgé qui oublie la liste des courses doit choisir entre une défense qui consiste à écrire la liste de ce qu'il veut acheter ou une autre qui consiste au contraire à s'imposer de l'apprendre par cœur. Mais de manière plus importante, le cerveau, comme tout l'organisme, possède un extraordinaire pouvoir de compensation. Si une fonction devient défaillante, elle peut le plus souvent être remplacée par une autre. Ainsi, on pense qu'avec l'âge, la pensée devient de moins en moins déductive et de plus en plus associative. Pour cette raison, les réponses sont souvent assez éloignées des questions, mais il suffit de le savoir et d'attendre. La personne âgée utilise les chemins de traverse de la pensée. C'est pour cela que dans toutes les cultures, ceux qui racontent le mieux les histoires pour les enfants sont les personnes âgées, et que ce sont des histoires où il y a tant de magiciens. Notons pour clore ce sujet que la place des anciens dans les sociétés dites de culture communautaire doit beaucoup à cette distinction. L'intelligence cristallisée, c'est celle du savoir, de la loi, des principes, du dogme. C'est le rôle du sujet âgé que de la représenter, confiant aux jeunes la mise en pratique, la réalisation, domaine de l'intelligence fluide. Et on ne saurait trop admirer la prudence des sociétés traditionnelles qui ont veillé à confier le pouvoir de décider à ceux qui n'ont plus les moyens d'agir. Ainsi, dans certains domaines, l'avancée en âge s'accompagne de progrès. Mais il y a aussi les aspects psychologiques du vieillissement. Comme je l'ai évoqué par avant, le vieillissement est pour chacun synonyme de perte et c'est cela qui le rend douloureux. Vieillir, c'est souffrir. Il faut alors abandonner cet idéal de toute puissance, de croissance indéfinie, que tout homme peut éprouver jusqu'à sa maturité. En somme, l'image du vieillissement peut être trouvée dans un stade du miroir inversé. On sait que Jacques Lacan décrit chez le petit enfant un stade du miroir. Tenu dans les bras de sa mère, l'enfant se découvre dans le miroir. Il se reconnaît. Il comprend alors qu'il est quelqu'un. Quelqu'un que sa mère tient. Pour Lacan, cette expérience est celle par laquelle l'enfant se comprend comme existant. De même, sans doute, c'est dans le miroir que chacun prend conscience de sa propre usure. Et c'est sans doute cela surtout que comprenait la reine de Blanche-Neige. Toutes ces pertes engendrent une blessure narcissique plus ou moins importante. L'estime de soi en est fragilisée. Le sujet devant faire son deuil d'une certaine image de lui-même. Qu'on s'en inquiète ou non, qu'on le prenne ou non avec philosophie, le processus est inéluctable. Ce regard jeté sur lui-même n'est évidemment pas objectif, mais il va conditionner les diverses réactions de deuil. Il faut le noter ici. La blessure narcissique du vieillissement est tellement dans l'air du temps que le sujet vieillissant l'accepte comme une douloureuse évidence et ne s'aperçoit même pas que ses pertes sont compensées par des gains et qu'il existe un énorme décalage entre l'image sociale du vieillissement, l'image qu'il en a quand il s'examine, et celle qu'il en aurait s'il découvrait ses possibilités réelles. La perception du temps évolue avec l'âge. Pendant toute la jeunesse, et même une bonne partie de l'âge adulte, nous vivons dans l'illusion d'un temps cyclique. Nous pouvons refaire notre vie, repartir à zéro. Malades, nous guérissons adultes sans séquelles. Le problème est qu'avec l'âge, le masque tombe. Il n'est plus question d'annuler le passé. On ne peut plus cacher les cicatrices. L'ardoise de la vie ne s'efface plus. Et c'est pourquoi les personnes âgées sont si friandes d'activités qui redonnent au temps un peu de circularité. Ainsi, le radotage que l'on peut repérer chez certaines personnes a plusieurs fonctions. Le radotage permet au sujet âgé de se rassurer sur sa mémoire grâce à une histoire qu'il connaît bien. Le radotage lui permet de se renarcissiser. L'auditeur, lui, ne connaît pas son histoire. Le radotage permet enfin d'annuler le temps en répétant la même séquence. On retrouve naturellement ce schéma dans les innombrables routines du vieillard. Pourquoi diable voudrait-on lui faire aimer l'imprévu, la nouveauté, quand cet imprévu et cette nouveauté sont précisément l'odieuse marque du temps qui passe ? Rappelons, d'autre part, que pour Freud, la gestion des crises peut se faire par trois mécanismes principaux. Il y a d'abord la fixation. Le sujet reste bloqué devant sa difficulté et ne sait pas la résoudre ni s'en détacher. D'où les idées fixes et obsessionnelles, ce qui peut se passer dans certains deuils. Il y a une autre façon de gérer la crise, il y a la régression. Le sujet tente de résoudre la difficulté en cherchant dans son passé une situation similaire et en tâchant de l'appliquer, cette solution de l'époque à la situation actuelle. D'où quelquefois le besoin d'évoquer des expériences enfantines, car c'est précisément le mode de fonctionnement des enfants. Mais c'est aussi le mode de fonctionnement de ce qu'on appelle l'expérience. Être expérimenté, c'est posséder un solide répertoire de solutions. Il y a une autre façon de réagir à la crise, c'est ce qu'on appelle la sublimation. Le sujet est capable de résoudre les problèmes poussés en inventant une solution adaptée. C'est la créativité qui est stimulée, par exemple par le professionnel qui, par le dialogue, invite la personne âgée à réfléchir. Le processus de sublimation fait largement appel à l'intelligence fluide. Il est donc plus difficile à mettre en œuvre par le sujet âgé, qui recourt souvent à la fixation, qui est un mécanisme de dépression, et à la régression qui le fait retomber en enfance. Mais nous avons aussi remarqué que le sujet âgé a un rapport différent avec le repas, avec l'alimentation. Manger est une mise en acte sociale de la nécessité de se nourrir. C'est appartenir à un groupe en se mettant en conformité à des modèles de conduite. Manger, c'est aussi se nourrir en prenant du plaisir. C'est un acte de relation en lien avec l'enfance. Parce que le plaisir fait appel à la mémoire. Articulation entre le passé et l'affectif. Ainsi même, quand l'estomac est plein, l'être humain sait se procurer du plaisir sur le mode oral. Cigarette, thé, café, digestif. Nous pouvons observer que plus une personne est fragile et vulnérable, comme les enfants et les sujets âgés, plus les émotions influencent l'alimentation et l'appétit. La personne âgée peut ainsi manifester des problèmes de comportement alimentaire. L'opposition caractérielle, par exemple. Opposition à tout régime alimentaire. Pour le sujet âgé, c'est une manière de reprendre le contrôle de la relation face à un sentiment de dépendance et d'humiliation. Ce comportement fait probablement écho à des sentiments de colère, d'impuissance et d'inquiétude. Les plaintes aussi sans cause majeure. Ça, c'est ce qui arrive souvent chez le sujet âgé. L'hypocondrie est une façon de lutter contre la dépression en incriminant un organe coupable de tous les maux. S'accrocher à un organe permet de ne pas s'accrocher aux autres qui nous ont quittés ou qui vont le faire. Il y a aussi chez le sujet âgé des perturbations psychosomatiques. Troubles du transit, céphalées, eczéma, asthme. Le corps est alors inversé comme un langage substitutif à la parole, difficile à libérer. Et puis aussi, il y a le laisser-aller dépressif chez le sujet âgé. La dépression est facteur de mauvaise alimentation. Le désintérêt pour la vie, sa propre personne et le manque d'appétit en sont les éléments classiques. Ce peut être aussi une manifestation mélancolique d'une vie ou d'être cher, perdu à jamais. Et puis il y a aussi, chez le sujet âgé, ce qu'on appelle l'opposition paranoïde. Le sujet attend que les autres aient fini le repas pour vérifier que ce n'est pas empoisonné. Forme de délire à bas bruit, projection de vécu négatif comme la colère, l'agressivité et la blessure narcissique sur les personnes extérieures. Il y a aussi chez le sujet âgé le désir de mourir. Il se manifeste par des interrogations existentielles et le refus de toute alimentation. Ce n'est pas un signe de dépression, car la personne reste positive. Le sujet âgé entame la démarche d'acceptation de la fin inéluctable. Et puis il y a cette souffrance de vieillir. Vieillir, affronter son vieillissement et celui de son entourage est une entreprise douloureuse. Et elle s'accompagne toujours de symptômes qui ne font qu'en révéler la difficulté. Ce sont ces symptômes que nous allons donc voir. Et ces symptômes conditionnent l'attitude à avoir dans l'accompagnement du sujet vieillissant. Il y a l'angoisse. Elle est omniprésente et liée à plusieurs causes. La prise de conscience du vieillissement, qui peut être l'occasion d'une crise profonde. Toute crise est toujours une déstabilisation. Le prototype en est la crise de l'adolescence. La crise est angoissante de deux manières. D'une part, il faut se dessaisir de ce qu'on possédait, de ce qu'on était, et rien ne garantit qu'on ne regrettera pas ce qu'on a perdu. D'autre part, il faut aller vers autre chose, sur quoi on n'a pas l'avantage de garantie. C'est donc simultanément un moment de souffrance et aussi une opportunité de changement. Il y a aussi la perte progressive des capacités intellectuelles. On a beau dire que les gains compensent les pertes, ici il s'agit d'abord d'un processus de perte et le sujet âgé n'a aucune garantie quant aux limites de cette perte. La menace de la démence, en particulier, ne peut être écartée et lorsque le sujet constate l'aggravation de son trouble nésique, il n'a aucun moyen, et le médecin non plus, de savoir si cette aggravation préfigure une démence ou si elle n'est qu'un épisode mineur. Le diagnostic de démence repose donc principalement sur l'évolution des troubles mnésiques. Les réactions de l'entourage aussi est importante. La question se pose de savoir comment l'entourage va tolérer cette crise. Le risque, si la crise dure, est que la famille décide une mise en institution, une mesure de tutelle. Le sujet se demande donc ce qui va se passer si la famille décide de dramatiser la situation. L'attitude dans l'entourage familial et institutionnel peut donc aggraver ou au contraire diminuer cette angoisse. Tout va dépendre du regard bienveillant que cet entourage pose la plupart du temps sur la personne âgée. Et ce sera le thème de ma prochaine intervention puisque j'évoquerai les effets du vieillissement sur la dynamique familiale. Voilà.
Un grand merci Marie-Christine Manuel pour tout ce que vous venez nous enseigner aujourd'hui. Alors maintenant, chers auditeurs, c'est à vous, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous rappelle pour cela le numéro de téléphone, les 04 94 209 109, le 04 94 209 109. N'hésitez pas aussi à intervenir par SMS au 07 83 89 13 75, 07 83 89 13 75. Nous attendons vos appels. Alors, Marie-Christine, Manuel, nous avons reçu un appel de Patricia. Patricia, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, Marie-Christine. Allô?
Oui, je vous écoute attentivement. Bonjour.
Oui, bonjour, Marie-Christine. Écoutez, merci, merci, merci pour votre émission. Ce matin, je ne sais pas si vous avez déjà intervenu, peut-être que je n'ai pas eu l'occasion de vous réécouter, mais là, ce matin, vous m'avez fait un bien, vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce que je suis confrontée justement quotidiennement 24/24, 7/7 à justement aux problèmes des personnes malades et âgées dans ma maison et aussi autour de moi. Et j'ai tellement plein de questions à vous poser, ça sera trop longue. Et simplement pour vous demander, est-ce que vous faites des formations, est-ce que vous intervenez dans des locaux, enfin voilà, justement pour aider, pour nous expliquer justement ce que nous savons pas, ce que vous avez dit, beaucoup de choses, on ne sait pas du tout. Et nous sommes confrontés quelquefois, nous sommes comme si, pour tout vous dire, je suis famille d'accueil agréée, et oui, nous avons l'impression d'être seuls. Nous avons l'impression d'être seuls et souvent nous sommes confrontés à des difficultés, justement, l'Alzheimer, personnes handicapées, les parents malades et tout ça. Tout, moi, j'ai une maman qui est malade et vous avez décrit justement des situations que je vis avec ma maman aussi. qui la famille, sont complètement déboussolés, si vous voulez, et justement ne comprend pas qu'est-ce qui lui arrive. On a l'impression qu'elle a une tendance d'avoir peur de la mort, et comme elle a des petits problèmes de cardiaque, elle a un pacemaker, et on sans cesse, on est en train de l'emmener, on l'emmène aux urgences, on l'emmène à droite et à gauche, et finalement, on ne trouve rien du tout. Et j'ai l'impression qu'elle a une angoisse de la mort. Elle parle beaucoup de la mort.
Oui,
elle parle beaucoup de la mort. Voilà.
Oui. Je voulais vous remercier pour votre intervention et surtout pour votre témoignage, parce que pour moi, ce qui est important, c'est que vous êtes à l'écoute, bien sûr, des personnes de votre entourage et principalement de votre maman. Et ça, c'est important. Vous avez déjà en tête que ce qu'elle exprime, eh bien, est vraiment une angoisse profonde. Et je pense que ça, c'est important que vous ayez cet accueil, finalement, de ce qu'elle ressent. Mais aussi, vous avez conscience de vos difficultés. Et ça, c'est un premier pas. Parce que quelquefois, eh bien, il y a cette fuite en avant d'agir, de tout faire pour essayer de résoudre le problème. Et là, vous sentez que, eh bien, effectivement, dans votre expérience, il y a quelque chose qui se passe. Et je crois que ça, c'est très important, parce que avant de chercher à se former, de chercher à avoir des réponses, c'est important déjà que vous ayez les questions et que vous ayez essayé, tâtonné, vérifié qu'il y a des choses qui marchaient, d'autres qui étaient plus compliquées. Effectivement, dans ces moments-là d'interrogation, de doute, c'est important de pouvoir justement faire appel à des personnes un peu plus neutres, qui n'ont pas forcément votre expérience intime de ce qu'est la maladie, la vieillesse, etc., mais qui peuvent effectivement, comme vous le disiez très bien, vous donner des éléments un peu récurrents de ce qui se passe chez le sujet âgé. Et je crois déjà que vous ayez en tête que votre maman a peur de la mort, eh bien, vous faites un chemin, un pas vers elle. Et ça, je pense que ça ne peut que l'aider, hein, que vous ayez bien interprété ce qui se passe en elle. Et après, bien sûr, il y a des formations, des consultations, etc., qui peuvent vraiment vous être utiles. Mais vous avez déjà fait 50% du travail, qui est de prendre en compte ce qui se passe chez votre maman et chez vous. Parce que on peut aller consulter, mais s'il n'y a pas ce travail d'élaboration, de conscientisation que vous avez fait, les formations et les consultations sont pas efficaces. Oui, effectivement, j'anime des formations, je reçois des personnes en consultation, comme d'autres personnes aussi peuvent le faire, et voilà, ça peut être une aide, mais l'aide, vous l'avez déjà en vous, parce que vous avez ce travail de prise de conscience, et je pense que ça ne peut que faire du bien dans la relation avec votre maman et votre entourage. Voilà.
D'accord. Mais par contre, vous avez donné peut-être une émission, il faut que je note la date. Effectivement, c'est vrai, effectivement, j'essaie vraiment effectivement de trouver des solutions. Mais quelquefois, je me sens quand même absorbée par tout ça. Je me sens quelquefois, je suis absorbée, quelquefois même épuisée. Je suis épuisée psychologiquement, physiquement, et quelquefois je ne trouve pas de temps de répit, je ne trouve pas du tout de temps de répit, et quelquefois j'arrive pas à faire le bien, souvent le bien que je désire faire, parce que moi-même je ne peux pas donner ce que je n'ai pas, et ça c'est vrai que c'est très important de nous dire comment faire, on nous dit de trouver un temps pour nous, mais c'est pas évident, on peut pas, parce que ces gens-là comptent que sur nous. Moi je sais que moi j'ai personne autour de moi. Ma maman, elle a peur qu'il m'arrive quelque chose, parce qu'elle sait qu'elle ne peut compter que sur moi. Voilà. Et ces personnes qui sont chez moi, c'est la même chose. Et ça, c'est très difficile quotidiennement. Très difficile quotidiennement.
Je comprends. Oui, tout à fait. Oui, mon intervention sur les effets du vieillissement sur la famille, ben, c'est la semaine prochaine. Voilà, le 5 février.
Voilà. 5 février, écoutez, lundi prochain.
D'accord,
voilà, c'est ça. Bah, écoutez, je vous remercie mille fois. Je vous en prie, parce que c'est très important, parce que de plus en plus on est confronté à ça, et les familles, surtout les malades, et aussi la famille, on est de plus en plus. Et c'est vrai que voilà, ce serait bien. J'aurais aimé pouvoir vous rencontrer, vous téléphoner pour pouvoir. Votre voix m'a fait beaucoup de bien ce matin. Vous pouvez pas vous imaginer. Que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. Donc merci beaucoup pour votre témoignage. Je pense que votre témoignage va sûrement aider d'autres personnes aussi. Ne pas se sentir seule, parce que c'est usant, au quotidien. Voilà. Au revoir.
Merci Patricia, au revoir.
Au revoir Sandrine.
Alors nous arrivons déjà au terme de l'émission. Merci pour tout ce que vous nous avez pris le temps de nous enseigner aujourd'hui. Voilà, ça vient rejoindre beaucoup de personnes, on le voit. Merci.
Oui, je vous en prie. À bientôt.
Et donc à très bientôt. Prochain. Tout à fait, avec joie pour la suite. Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Au revoir.